Le journal Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour et une journée de plus pour le sommet européen. Les 27 remettent le couvert cet après-midi à Bruxelles, incapables de se mettre d'accord sur le plan de relance. On verra qu'il y a un espoir ce matin. En tous les cas, 3 jours, 3 nuits de psychodrame, on vous raconte. On verra que ça coince sur les subventions, mais pas seulement. On y revient aussi à 8h20, Hélène, avec votre invitée qui en a vécu de ces sommets douloureux.
Oui, ancienne secrétaire d'État aux affaires européennes, ministre de la transformation et de la fonction publique aujourd'hui. Amélie de Montchalin dans le grand entretien. On attend vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans ce journal, encore licenciement post-Covid redouté en France. De plus en plus d'accords de performance collective négociés. Survie de l'entreprise contre droit des salariés grignotés. Le masque se rempart contre le virus. Obligatoire à partir d'aujourd'hui dans tous les lieux publics clos. Cette fois, tous les commerces, administrations, banques concernées. En Belgique, on le verra, cette obligation est bien acceptée. Mauvaise gestion de la pandémie plus crise économique. Nous serons en Israël où Benjamin Netanyahou est de plus en plus contesté. Plusieurs enfants atteints de cancer autour de La Rochelle. Une étude sur l'air est lancée. Et la tournée d'été du violoncelliste Gauthier Capuçon.
France Inter.
Ne pas s'avouer vaincu, ne pas se quitter sans un accord. À Bruxelles, les 27 vont se retrouver à nouveau cet après-midi. Toute l'Europe, menacée par une récession historique, les regarde. Ce plan de relance à 750 milliards d'euros va-t-il être mis en œuvre et comment? Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Bernadette.
Alors, 3 jours, 3 nuits d'âpres discussions, pas en vain, car un début de compromis apparaît.
Oui, de quoi peut-être infléchir la position des pays dits frugaux, tenant de l'orthodoxie budgétaire, historiquement méfiant vis-à-vis des cigales du Sud qui, c'est bien connu, laissent filer les déficits. Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède et Finlande qui veulent limiter la dépense en deçà des 400 milliards d'euros réclamés par Berlin et Paris. Ligne rouge du couple franco-allemand parfaitement aligné dans la tourmente et très remontée contre les Pays-Bas et leurs alliés. Cette nuit, Emmanuel Macron a littéralement tapé du poing sur la table, fustigeant la mauvaise volonté et l'incohérence de ces pays frugaux, ou plutôt radins, qui agissent comme le faisait hier le Royaume-Uni, qui demandent un peu de tout et toujours plus, qui cherchent à faire levier, prendre en otage, maximiser leurs profits. Le président français a menacé de quitter la négociation tout en faisant peut-être un nouveau geste. 350, 400 milliards, on saura tout à l'heure où s'est arrêté le curseur.
Alors cela veut dire qu'on voit le bout du tunnel?
C'est en tout cas ce que tout le monde espère, hein, car personne n'a quitté la table. Preuve qu'en dépit de leurs profondes divergences, les 27 veulent aboutir. Un échec serait terrible pour l'image de l'Union européenne incapable d'agir face à la crise. Le problème, c'est que les dossiers problématiques ne se limitent pas au volume du plan de relance. D'autres lignes de fracture existe, du contrôle des fonds versés au respect de l'état de droit, conditions réclamées par les pays d'Europe du Nord mais qui hérissent la Pologne et la Hongrie. Bien des psychodrames donc, encore en perspective lors de ce sommet parti pour battre des records de durée.
Merci Louise Baudet. Donc pour l'instant, repos pour les 27, quelques heures, puisque la reprise du sommet est prévue à 16h cet après-midi. En France, alors que l'on redoute une hausse massive du chômage, des licenciements à la rentrée, le gouvernement met en avant les accords de performance collective, créée en 2017 par les ordonnances Macron. Leur principe, revenir sur les droits des salariés pour sauver des emplois. Pas facile pour les syndicats de négocier de tels accords, Laurent Kramer.
Souvent qualifiés de chantage à l'emploi, les accords de performance collective sont vécus comme des négociations à haut risque. Choix cornélien pour les élus de l'entreprise qui ne disposent la plupart du temps que d'informations partielles sur l'état de santé réel de l'entreprise, explique Philippe Portier, secrétaire national CFDT.
C'est forcément délicat quand on dit c'est soit les licenciements, soit vous faites des efforts de primes ou autres. C'est toujours très compliqué, bien sûr. Et c'est d'autant plus compliqué quand les choses sont pas posé loyalement sur la table.
Avec ces accords de performance collective, les syndicats estiment toujours avoir le mauvais rôle sans réelle garantie derrière de maintien de l'emploi. Mais si autant d'accords de ce type sont aujourd'hui en gestation dans les entreprises, c'est bien que la question de leur survie est aujourd'hui sur la table, souligne Raymond Soubi, président d'Alexio, qui conseille les entreprises dans leur stratégie sociale.
Mais c'est pas du chantage. Les entreprises sont pour certaines à bout de souffle. Si c'est un moyen de sauver un certain nombre d'emplois, alors que tout le monde voit bien qu'ils sont là menacés immédiatement, je crois que ce ne sera plus perçu comme du chantage.
Le gouvernement propose de son côté un autre dispositif du même type, l'activité partielle de longue durée, où l'État prend à sa charge une partie des salaires à temps partiel payés 84% pour le salarié.
Explication de Laurent Kramer, alors que plusieurs centaines d'accords de ce type sont actuellement en négociation dans les entreprises en France.
On en vient à cette actualité, le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos en France.
Alors c'était déjà le cas dans les cinémas, les restaurants, les gares. La nouveauté, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il faut le porter aussi dans tous les magasins, petites boutiques comme centres commerciaux, marchés couverts, administrations, banques. Obligation, cela veut dire aussi sanctions. Une amende de 135 € si on n'a pas le masque sur le visage. La deuxième vague n'est pas là, pas encore, mais c'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il faut consolider la digue, Daniel Messager.
C'est un rempart, pas infranchissable, mais un rempart quand même. Le masque se porte d'abord pour protéger les autres, pour ne pas transmettre les gouttelettes de salive quand on parle, a fortiori quand on tousse ou éternue dans des endroits clos. Quant à la protection pour soi-même, elle n'est pas totale, mais le risque est atténué. Le masque chirurgical filtre plus de 90% des particules de 3 microns, c'est 70% pour le masque en tissu. Que disent les études sur une protection contre les aérosols? 200 scientifiques ont alerté sur la possible transmission aérienne du virus, l'air ambiant pouvant être contaminé car la particule virale continue de flotter dans l'atmosphère. Une certaine inquiétude s'en est suivie qui a poussé sans doute vers ce port du masque. Mais tous les scientifiques n'adhèrent pas. Un certain nombre estiment que ce risque-là ne serait pas si important. Néanmoins, tous s'accordent pour dire qu'il peut y avoir accumulation de virus dans les espaces fermés. Porter un masque constitue donc une protection et le porter correctement, c'est-à-dire sur le nez et pas en dessous, en pinçant bien la barrette rigide qu'il maintient en place, d'autant que la muqueuse du nez est la principale porte d'entrée du virus.
Alors pas de panique hein, si on oublie son masque et qu'on s'en aperçoit en arrivant juste devant un centre commercial. Les centres commerciaux d'ailleurs qui devront en proposer, le gouvernement aussi demande aux lieux touristiques d'en mettre à disposition. Il devrait aussi en fournir aux personnes en difficulté financière. Donc l'amende en France c'est 135 €. En Belgique, cette mesure est entrée en vigueur il y a déjà 10 jours. L'amende est particulièrement dissuasive, 250 €. Alors est-ce pour cette raison que les masques sont bien visibles sur les visages, comme à la panne sur la côte belge où s'est rendu Emmanuel Boin?
Porteur est installé dans la rue commerçante qui mène à la plage. Ce fleuriste a remarqué un changement de comportement chez ses clients.
Maintenant c'est mieux, hein. Maintenant c'est presque normal. Tout le monde est avec un masque, oui.
Une mesure contraignante mais appliquée par beaucoup de Belges. Michel et Eddy sortent d'une supérette avec le masque.
Je pense que c'est utile. C'est utile de le mettre, on se sent plus sécurisé. Et il y a tellement un brassage de population que je trouve que c'est normal. Oui, parce qu'il y a des gens qui le mettront, il y a des gens qui ne le mettront pas si on n'est pas obligé. Et je pense qu'il vaut mieux l'imposer, tant pis.
Là, depuis qu'on doit le porter, il y a quand même l'amende de 250 €. Je crois que ça fait quand même réfléchir les gens.
Benoît est en vacances à la panne depuis une semaine. Pour cet arrageois, cette obligation arrive un peu tard chez nous.
Comme un peu à chaque fois, en tant que frontalier, on se rend compte que la Belgique a toujours un train d'avance par rapport à la France. Et je trouve ça complètement normal de mettre un masque dans les lieux clos. C'est pas du tout gênant. Hein. Là, il est dans notre sac à dos. Enfin, c'est pas une contrainte. Hein.
À partir d'aujourd'hui, en France, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics fermés. En cas de non-respect, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €.
En Europe encore, l'Angleterre devrait aussi très bientôt imposer le masque dans tous les lieux publics. En Espagne, à Barcelone, forte recommandation à rester chez soi. Un reconfinement partiel qui est de plus en plus envisagé en France, où une centaine de foyers épidémiques sont sous surveillance. Le gouvernement se prépare, réfléchit à plusieurs scénarios de la limitation des déplacements à l'interdiction des rassemblements, bien sûr si la deuxième vague arrive.
Alors que de plus en plus de gouvernements sont critiqués pour leur gestion de la crise épidémique.
Et c'est le cas en Israël, où la convergence entre le virus et la crise économique fait beaucoup de mal à la popularité de Benjamin Netanyahou. Reportage à Jérusalem de notre correspondante Alice Froussard.
La gestion chaotique de cette seconde vague, les plans de relance de dernière minute, le taux de chômage qui bondit de 3 à 23% et les restrictions Covid-19 absurdes avec un arrière-goût politique. Benjamin, 59 ans, en a assez. Il l'a écrit sur sa pancarte devant la résidence du Premier ministre israélien. Netanyahou doit partir.
C'est un nouveau monde maintenant, la crise du coronavirus. Et c'est le moment pour une révolution.
Cette semaine, ils étaient plusieurs milliers dans les rues comme lui a demandé la démission de celui qu'on surnomme Bibi, une manifestation d'une intensité rare, un mouvement populaire généralisé, explique Patrick, qui vient presque tous les jours.
C'est au-delà des partis politiques. C'est pas une prise de position de gauche, mais je voudrais tellement que cette personne-là ne soit plus à la tête du gouvernement.
Beaucoup lui reprochent de ne pas s'être soucié de la politique intérieure ni des affaires sociales. Gad Barzilai est professeur de droit israélien.
Vous avez cette convergence, la corruption, le chômage, la crise économique et le coronavirus. Je pense que nous ne sommes qu'au début d'une vague de protestations massives.
Selon un sondage, 61% des électeurs sont mécontents de la gestion de l'épidémie. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Aux États-Unis, Donald Trump continue à jouer les devins optimistes. L'épidémie, dit-il, va finir par s'éteindre. Quant à l'un de ses anciens soutiens, le rappeur Kanye West, qui a décidé lui aussi d'être candidat à la présidentielle, eh bien, il a gratifié ses supporters d'un étrange lancement de campagne hier à Charleston, en Caroline du Sud. Propos confus d'abord sur l'esclavage, sur le vote noir démocrate qui serait une forme de racisme. Et puis soudain, les sanglots quand il évoque sa naissance, une victoire contre son père qui voulait que sa mère avorte. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas de Kanye West parce que mon père était trop occupé. Voilà, et vous l'entendez, ça s'est fini en cris de plus en plus incompréhensible. À Nantes, fin de la garde à vue de l'homme travaillant pour le diocèse, interrogé après l'incendie de la cathédrale. Il était chargé de fermer l'édifice la veille de l'incendie. Aucune poursuite contre lui. L'enquête reste ouverte pour incendie volontaire. Dans la cathédrale, le grand orgue, qui date du XVIIe siècle, n'est plus qu'un tas de cendres. Définitivement perdu, lui, un tableau d'Hippolyte Flandrin. Une partie des vitraux a également souffert. Et puis une souscription a été lancée par la Fondation du patrimoine. Elle a pour l'instant collecté 27 000 euros.
8h12, pourquoi tant d'enfants atteints de cancer à Saint-Rogatien, près de La Rochelle ?
Entre 2008 et 2016, dans cette commune de 2000 habitants, 5 enfants et adolescents ont développé des cancers, 3 enfants aussi sur la commune voisine de Périgny. L'an dernier, une étude de l'INSERM a conclu qu'un excès de risque ne pouvait être écarté pour les moins de 24 ans. La communauté d'agglomération de La Rochelle a décidé aussi de mener une étude sur l'air et les familles en attendent beaucoup. C'est un reportage de Julie Pietri.
C'est en 2018, quand Fabienne Pierre réalise que 3 amis de ses enfants sont malades d'un cancer, qu'elle commence à s'interroger sur les usines situées à quelques centaines de mètres de là et qui dégagent de fortes odeurs. La société rochelaise d'Enrobé, qui fabrique du bitume, et une plateforme de compostage.
La difficulté, c'est de savoir s'il y a un rapport de cause à effet. Pour nous, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est beaucoup plus facile de dire que voilà, c'est pas de chance, ce qu'on a entendu. Mais nous, on n'y croit pas et on ne lâchera rien.
Usines, pesticides, aussi utilisés dans les champs alentours, les familles qui ont créé l'association Avenir Santé Environnement se questionnent sur un possible effet cocktail. Nathalie attend beaucoup de l'étude en cours sur la qualité de l'air. Sa fille Pauline a combattu 2 cancers. Elle est morte à 15 ans au mois de décembre.
J'espère que ces résultats vont apporter des réponses à toutes nos questions. Parce que nos enfants tombent malades et ma fille n'est plus là. Et moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi, quoi. Je veux que ça s'arrête.
Yann Guillaumard est le directeur général des services de l'agglomération de La Rochelle.
On ne peut pas se contenter de dire, selon les sources médicales, il n'y a pas d'un nombre de cas suffisant permettant de dire qu'il y a un effet de causalité évident. Tout l'enjeu, il n'est pas tant de savoir qui est à l'origine, il est de savoir quelle est l'origine pour trouver les solutions et prendre les mesures correctrices pour que ça s'arrête.
Dans le cadre de cette étude, une 30aine de molécules sont recherchées. Conclusion attendue en mars prochain.
Et cette enquête de Julie Pietri, vous pouvez la retrouver en longueur, en images, sur franceinter.fr. La musique encore plus indispensable en cet été particulier. Cet été en France que le violoncelliste Gauthier Capuçon veut vivre au plus près des gens. De ville en ville, il donne des concerts gratuits. Il a choisi des petites villes volontairement, comme hier à Tonnerre dans l'Yonne. C'est un reportage de Morgane Euclin-Refait.
Les notes de Bach au bout de son archet, Gauthier Capuçon joue devant un public conquis.
Franchement, dans un endroit pareil, là, c'est un vrai délice.
La qualité de la musique dans le lieu s'associait formidablement bien et c'est donc un moment magique.
C'est le chant des oiseaux de Pablo Casals.
Dans la commune de 4000 habitants, un tel concert gratuit, c'était inespéré.
On ne peut pas rêver mieux, sans aller dans les grandes capitales.
On est content que la culture vienne à nous dans nos campagnes. C'est vrai que on est carrément éloigné de tout ça. Ça nous a fait très plaisir et puis on trouve sa démarche tellement sympathique.
Pour nous, c'est quand même un grand bonheur d'avoir ce genre de musiciens qui viennent ici. Ça serait dommage de s'en priver.
Même la petite fille de Michel, Lila, a apprécié.
Franchement, j'ai bien aimé au final. C'est pas quelque chose que je vais voir d'habitude, mais c'était sympa.
Rencontrer un nouveau public, c'est bien le but de cette tournée pour Gauthier Capuçon.
C'est beau de voir ces familles, il y a des enfants, il y a des gens qui assistent pour la première fois à un concert. Je trouve ça important de faire le pas aussi, d'aller vers eux. On a encore la sensation que la musique est réservée à de grands mélomanes, mais non, la musique, elle s'adresse à tous.
Il pourrait donc prolonger l'expérience. Le violoncelliste n'exclut pas d'organiser de nouveaux concerts à travers les bourgades françaises.
Alors c'était hier la 8e étape, Gauthier Capuçon a prévu 23 dates, donc il en reste 15 si j'ai bien calculé.
C'est des bons calculs, merci pour le journal Bernadette Chamonaz.